feels so good. You're lying here next to me. Oh, what a groove.
Par quoi vous voulez commencer, Aurore Pourny? Hein? Non, on parle de livre. Hein. Non, mais c'est avec la petite musique derrière, les gens doivent se dire des choses.
Je pense que ça va être encore une très drôle chronique.
Oui, alors, ne nous méprenons pas avec cette musique-là. Nous ne sommes pas dans un peep show, ni dans une boîte échangiste. Nous sommes à la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan. Je vais quand même prendre une petite coupette pour la forme. C'est le printemps et ça va s'entendre.
Oui, on va parler érotisme aujourd'hui et sensualité. J'appelais ça cette chronique la battle érotisme versus sensualité.
Chronique et versus, hein, dans la même phrase. Vous savez quoi, je vais mettre un pantalon. Non, mieux que ça, je vais enfiler un peignoir. Jingle.
Pour votre santé, écoutez MDM, la seule radio locale de Mont-de-Marsan.
Il est bien ton bouquin. Casse pas des briques. Mais le tien. Je comprends rien.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Je vais peut-être dire une bêtise, La Peste.
La Peste, ah non. Ah oui, c'est Zola.
C'est Camus.
Camus, ah bon.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Comment vous avez fait ça? Chronique versus érotisme?
Une chronique érotisme versus sensualité.
Vous savez qu'il y a des enfants à cette heure-ci là, qui rentrent. Enfin, on peut le faire quand même, les enfants peuvent rester?
Bien sûr, oui. Évidemment.
Ils n'ont pas besoin de nous, hein, pour. Enfin bon, bref.
Et évidemment, on ne parle que de littérature et ce ne sont que des mots.
Oui.
Oui.
Mais avec des gens qui connaissent bien le. Domaine où l'amour sera roi et où tu seras reine. Par quoi qu'on commence?
On va commencer par ma dernière lecture. Il s'agit de La chair est triste, hélas, de Ovidie, qui est paru très récemment aux éditions Julliard. C'est le premier livre d'une nouvelle collection qui s'appelle Fauteuse de troubles, qui est dirigée par Vanessa Springora, qui avait écrit le très remarqué Consentement.
On peut resituer. Alors, La chair est faible, hélas, référence à Mallarmé, si je me souviens bien, dans Brise Marine. La chair est faible, hélas, et j'ai lu tous les livres. Faut que je vous dise ça à vous.
Oui, c'est possible. Ouais. La chair est triste.
Oui, c'est La chair est triste, et hélas, et j'ai lu tous les livres. La chair est faible aussi. Et puis alors, Ovidie.
Pour resituer Ovidie très rapidement, c'est une documentariste, autrice, journaliste.
Voilà, qui a eu une première vie. Il y a eu du film culte comme La fête à Gigi, Orgasmus numéro 2 ou encore Sotopaf et sa copine font leur cinéma. Elle est passée aussi derrière la caméra, si ça va être
elle
difficile.
Ça va être très difficile. Surtout ça, mais elle critique ça, qu'elle a quand même une carrière de documentariste qui est quand même assez énorme et on lui remet toujours sur le tapis.
Elle a été ancienne actrice.
C'est quelques années de travailleuse du sexe.
Travailleuse du sexe filmée, hein, comprenons-nous.
Oui.
Je vous recommande quand même Orgie en noir et Le Point G, qui sont ses réalisations et qui sont franchement super bien. C'est hyper esthétique. Blague à part, Ovidie. Avant de se lancer dans le X, il faut savoir qu'elle a fait des études de philo, ce qui n'est pas une fin en soi, mais qui montre déjà quand même que c'est une femme à part. Alors, je sais que ça a l'air comme ça insensé, qu'elle s'est lancée dans le porno, justement, pour libérer la parole de la femme. Ce qui peut paraître un petit peu contradictoire, mais avec le talent d'Ovidie, ça ne l'est pas.
C'est le cas. Elle va l'aborder ici. Alors, juste avant de parler d'Ovidie, je vais peut-être commencer par parler de moi, ce qui est quand même rare en littérature.
Vous voulez faire du cinéma?
Non, pas du tout. Oh merde, je savais que c'était...
C'est une fausse bonne idée.
Bah oui, mais quand Anthony me dit « mais t'as qu'à en faire une chronique », je lui dis « mais non, je peux pas parler de ce titre, c'est impossible ». Et en fait, je me retrouve quand même à en parler. J'en ai fait une lecture personnelle et non professionnelle. Je m'interroge énormément en tant que femme, célibataire, de ce 40 ans, hétérosexuelle. J'avais besoin d'un point d'appui pour toutes mes interrogations, éventuellement quelques réponses. Quand on met dans le même panier la sexualité, la séduction, l'érotisme, la sensualité, l'amitié, la famille, l'amour, tout ça dans le même panier, on se coupe bien et démerdez-vous avec ça. J'arrive à un âge où je m'interroge là-dessus. Où
ça peut être une petite crise de la quarantaine. Mais
exactement. Et Ovidie vient de fêter aussi ses 40 ans. Quand on m'interroge beaucoup, mais tu t'es retrouvé un homme tout le temps. C'est systématique.
Il y a un appel, hein, messieurs, hein, si vous êtes de l'autre côté.
Alors justement, si vous écoutez jusqu'au bout, peut-être.
Les mecs vont dire, ouais, mais non, finalement, non.
finalement, non. Dans ces temps où l'immédiateté prime sur absolument tout, on en arrive à un moment où le sexe devient primordial. L'érotisme surpasse notre besoin de sensualité. Voilà, ça c'était mes interrogations. Quand j'ai vu que Ovidie se posait les mêmes questions que moi, c'est pour ça que j'en suis venue à lire ce texte. Qui, il faut le dire, ça reste quand même un coup de gueule d'une féministe sur sa sexualité et la sexualité en général. Donc moi, je ne vais peut-être pas vous parler de ce combat féministe-là. Les témoignages féministes, j'en ai lu beaucoup et c'est plus les lectures que j'ai envie d'avoir là maintenant.
Il y a déjà une forme de féminisme éculé, enfin une vision peut-être.
Il y a beaucoup de littérature sur ces thèmes-là. Il y a beaucoup de récits intimes et de coups de gueule intimes de femmes qui existent et même de très très bons. Ça pourra faire l'objet d'une autre.
Il y a un fonds de commerce féminisme aussi.
Oui. Oui.
Si j'ose.
Je pense que depuis la parution de Sorcière de Mona Chollet, il y a vraiment toute une littérature qui revient sur ces questions-là. Et il y a un nouveau...
Je pense pas qu'aux auteurs, je pense aux éditeurs aussi, hein, qui s'engouffrent dans la brèche.
Mais évidemment, la preuve en est cette nouvelle collection, et il y en a d'autres.
Sauf que là, c'est Ovidie.
Ovidie, qui n'y va pas par le dos de la cuillère pour nous parler.
Faire gaffe à toutes les expressions qu'on emploie.
Mais non, mais je fais exprès. Mais non, mais pour vous montrer aussi que tout ce vocabulaire-là, ça n'est pas anodin du tout. Voilà, mon combat féministe à moi se trouve dans la littérature et dans la littérature jeunesse. En tant que libraire, je cherche à boycotter tous les stéréotypes en littérature jeunesse et je vais rester sur ce combat-là quand il s'agit donc de parler de combat féministe. Donc, ma lecture de ce texte n'est pas dans cette énième colère envers la gente masculine, mais vraiment sur le récit de cette femme, Ovidie, qui a décidé il y a 4 ans de faire une grève du sexe. C'est très, très parisien comme comportement.
Oui, je vois bien.
Oui, alors du coup, on dit non, c'est très citadin.
Ouais, voilà, très citadin.
C'est très, très citadin.
Pas de gluten, pas de sexe. Voilà, c'est un gros.
Voilà, c'est
tout
ça.
Tout se suit.
Donc, elle s'est lancée dans une grève du sexe avec un ami masculin. Et leur première question a d'abord été, ça commence où le sexe?
Ouais.
Et déjà,
ça peut commencer tout seul.
Et déjà, l'homme et la femme ont été obligés de poser des limites parce qu'ils n'étaient pas d'accord. L'homme, le sexe commence avec une pénétration, ce qui n'est pas du tout le cas pour la femme. Une œillade ou un frôlement peuvent être un début.
Un silence même.
Mais aussi un silence. Donc, il a fallu pour eux poser ces bases-là. Ce qu'elle nous dit... Vraiment, c'est que notre besoin d'affection est vraiment impérieux et que le sexe n'est pas forcément une bonne réponse. Que notre besoin de sensualité, donc c'est le plaisir des sens, est plus important que la recherche du plaisir sexuel, donc l'érotisme. Et ça répond à cette question-là. Après, tout le comment elle y arrive, c'est un récit et un témoignage... important qui permet de lancer les discussions entre hommes et femmes. Je trouve qu'elle n'insiste pas assez sur le fait que son amie mène cette même grève-là et qu'on aurait dû... Ça mériterait que cette question-là mériterait d'être plus détaillée. Mais ça a vraiment le mérite de lancer une discussion et je serais ravie d'en discuter avec tous les hommes et d'autres femmes aussi qui l'auraient lu.
Après, avec Ovidie, c'est souvent radical, hein, je la cite, les bonnes sœurs sont des féministes qui s'ignorent, elles ont compris la sororité avant tout le monde.
Mais oui.
Vous l'empruntez, moi, ce bouquin.
Mais bien sûr.
M'avait donné envie.
Très bien, parfait.
On fait une pause,
on rappelle. Ovidie, La chair est triste, hélas, aux éditions Julliard dans la collection Fauteuse de troubles.
La suite de ce rendez-vous érotico, comment vous l'avez fait déjà ?
Érotisme versus sensualité.
Bon, alors seconde partie sensualité, ce sera après une bonne chanson paillarde. Alors allez-y, hein, faites comme chez vous, il y a l'atelier cire chaude au fond avec Dominator et la suite de notre rendez-vous autour de belles lettres.
Exactement.
Comme le G ou le Q. On était sur de l'érotisme, on est sur de la sensualité, ce qui n'est pas la même chose. Définition pour vous, Aurore Porny.
La sensualité, c'est la recherche du plaisir des sens. L'érotisme, c'est la recherche du plaisir sexuel. Je fais peut-être des raccourcis, mais...
On peut en rester là ou parce que là, c'est bien, on peut conclure là-dessus. Hein.
On va conclure.
Ouais. On sait jamais sur un malentendu, on peut conclure.
Oh merde. Bien, donc, une fois ceci posé, ouais. Parlons littérature maintenant. Ressentons, vivons, expérimentons l'expression la tension érotique est à son comble.
Ah oui, avec... ah, c'est super ça. Ah, c'est super bien.
Avec les deux bonnes de Pierre Michon. Pierre Michon est vraiment un classique de la littérature. Il a été étudié et décortiqué par de nombreux universitaires. Ça en fait un classique contemporain. 96 était paru La Grande Bonne aux éditions Verdier également.
Forgive me, mais c'est quoi une bonne ?
C'est le nom d'une rivière en Dordogne. L'action se situe en Dordogne.
C'est la rivière qui s'appelle La Grande Bonne.
La rivière s'appelle La Grande Bonne et il y a aussi du coup la petite bonne.
C'est 12 et midou, hein.
C'est 12 et midou.
C'est pur gascon.
12 et midou, oui, non, c'est ça. Et donc là, vient de paraître, presque 30 ans plus tard, La Petite Bonne, qui est la suite. Pierre Michon avait pour projet, donc dans les années 96, d'écrire un texte qu'il aurait appelé L'Origine du Monde.
Déjà pris.
Alors, ce qui exprime très bien le côté préhistorique, animal, comme le côté érotisme, parce qu'évidemment, L'Origine du Monde, vous le savez, c'est le tableau de Gustave Courbet où on voit le sexe féminin du côté des cuisses.
Ouais. Et on se fait censurer si on le poste sur Facebook.
Alors du coup, j'adore vraiment la couverture du...
Ah ouais, ça y est, je l'ai.
Ça y est, vous l'avez, la couverture.
C'est une touche en pierre.
Voilà, mais c'est une œuvre préhistorique faite par les hommes préhistoriques dans une grotte.
Mais non.
Mais si, donc on y voit trois entailles et qui donne un point de vue un peu comme l'origine du monde.
Il s'est pilé au paléolithique.
C'est ça, oui, il n'y a pas de fougère dans la grotte, évidemment. Ouais. Ah oui. Voilà, c'est chaud et humide.
Hey, hashtag Lascaux.
Hashtag Lascaux. Mais oui, ça, alors, l'action se passe juste à côté des grottes de Lascaux, justement.
Mais jamais de hasard.
Mais jamais de hasard, mais tout ça a un lien, évidemment.
Des fois, je ne suis pas loin d'être bon.
Donc, je cite Pierre Michon lui-même, concernant son projet L'Origine du Monde. Il nous dit « C'était tout un roman, justement. C'était fabriqué, planifié, ficelé et nécessairement truqué, puisque tendu vers l'arbitraire d'une forme assez fatiguée, celle du petit objet de 300 pages qu'affectionne le marché sous le nom de roman. Seul méritait d'être publié ce qu'il a été, donc La Grande Bonne. Après, il fallait de l'action, la possession ou le renoncement, la fornication ou le meurtre. Les rebondissements, comme on dit, tous ces événements très relatifs et arbitraires dans lesquels le roman perd en chemin le potentiel énergétique de la prose. » Donc, c'était assez ambitieux pour Pierre Michon, une fois cela dit, d'aller sortir une suite, donc La Petite Bonne, 30 ans plus tard. Donc, dans tous les romans de Pierre Michon, l'intrigue importe peu, comme dans tous les chefs-d'œuvre, finalement. Quand même, pour vous faire un peu l'histoire, de quoi il s'agit. On suit un instituteur de 20 ans qui va prendre ses fonctions dans un village de Dordogne, donc juste à côté des grottes de Lascaux. Je suppose que c'est pas innocent le fait qu'il ait situé son action là, parce que tout dans son roman est vraiment minéral, préhistorique, comme si l'homme n'était jamais sorti de l'âge de pierre. Cet instituteur habite chez Hélène, c'est l'auberge du village, et il va être tout simplement subjugué par Yvonne, la buraliste du village. Et tout le roman, c'est cette quête vers Yvonne. Je vais quand même vous faire une petite citation qui pose bien le décor. « J'étais dans l'âge où l'on croit n'avoir rien à donner, rien qu'on puisse échanger contre tant de richesses, les cuisses et les seins, les sequins d'or et le cri des jupes. Rien, et sûrement pas cette chose incongrue qui vous pousse magistralement au ventre. Et puis j'étais de ces générations absurdes, encombrées, qui imaginent que le désir vous vient aux femmes sous la réserve qu'on puisse leur parler de choses signalées ou sévères, la chansonnette ou les beaux-arts, la politique, la bouillie de l'air du temps. » Ou, si on ne peut pas leur en donner, qu'on leur en marque au moins que tout cela n'a pas de secret pour vous. J'étais joli garçon pourtant, sans doute aimable, et ce qui me poussait au ventre était bien suffisant pour la convaincre. Ou l'aurait été plutôt, on l'apprendra, si son cœur, comme on dit, n'avait pas été pris. Voilà. Ça, c'est une citation dès le départ.
Aurore Pordy, c'est la Lectrix.
Ah, c'est génial.
C'est bien ça.
Aurore Lectrix. Mais merde, comment on repart
vous me demandez ça à moi.
Donc, je ne fais que encore une fois, je fais beaucoup de citations parce que Nombre de profs, d'enseignants et d'auteurs ont parlé de Pierre Michon bien mieux que moi. Yannick Hennel le dit très bien, Yannick Hennel, auteur qui parle beaucoup aussi d'érotisme dans ses romans. Il nous dit « L'obsession sexuelle est l'origine de la narration masculine. C'est aussi en cela qu'il est bon de la censurer, sinon elle se change en domination et dégénère en violation. » Ça résume assez bien. Ça résume assez bien ce roman qui est vraiment plus dans la tension érotique, encore une fois, que dans l'acte en lui-même. Cela dit, dans Petite Bonne, 30 ans plus tard, il va y avoir une étape supplémentaire dans la relation entre le narrateur, dont on apprendra enfin le prénom, et Yvonne. Mais encore une fois, l'intrigue vraiment est secondaire. Il va même littéralement comparer le jeu de la séduction à un carnaval. Ce fameux jeu de la séduction qui me pose tant de problèmes actuellement et qui me demande...
Vous n'êtes jamais livré comme ça ?
Beaucoup trop d'énergie, hein ?
Vous livrez totalement.
Mais oui, alors c'est...
Vous offrez, Aurore.
Mais oui, alors c'est pour ça que je voulais pas...
Allongez-vous sur le divan.
Que je voulais pas forcément parler d'Ovid.
Il faut une carte fidélité.
Mais c'est ça. Alors, et la fidélité, elle est récompensée comment ? Allez-y.
C'est-à-dire qu'au bout de 5 séances, vous présente un ami.
Finissez votre phrase. Oui. Voilà. Je rappelle Pierre Michon. Pourtant, je suis pas mal à l'aise du tout. Hein.
Vous savez, c'est la première chronique radio qui est une forme de thérapie.
Non, pas du tout. C'est que je parle de moi. Habituellement, je parle de moi, mais plutôt à travers la littérature.
La prochaine étape, c'est de prendre la plume.
Ben, peut-être.
Oui.
Ben oui.
Ou de votre carte bleue pour me régler ce que vous me devez.
Du tout. Non, c'est vous qui allez me devoir de l'argent.
Ce que je sais avec vous, Aurore Pourny, c'est qu'on n'entend pas le temps passer. Moi, je vous propose quelque chose. On va dire que là, c'était les préliminaires. Vous allez revenir la semaine prochaine, genre mardi, et on va parler d'un autre bouquin où il est question de sensualité et un petit peu de huc aussi quand même.
Mais complètement.
Mais
il faut... Ah, mince. Ça allait bien quand même.
On va parler de Janine. Janine 1982, vous revenez m'en parler mardi.
D'accord.
On fait ça ?
D'accord, ok.
Ouais. Et je passe au pressing.
Ah oui, Ah mince, on est trop court. Ouais, mais elle va être trop... Ça peut, hein.